Le livre des règlements.
Le résultat de votre analyse ?
Le règlement.
Nous devons savoir.
J'aimerais une suspension de séance.
La cour attendra une réponse.
Avec votre arbitre, Maître Sophie Mongeon de Desroches Mongeon, avocat.
Nous en respectons les règles.
Voici le livre des règlements.
Comment ça va, Maître Sophie?
Hey,
Sophie?
Ça va super bien. Ça sent le printemps. Ça me donne un boost d'énergie.
Cool.
Je pense que je ne suis pas la seule.
La marmotte avait raison. Maître Marmotte avait raison.
Oui, puis avec une petite victoire du Canadien, mais ça me réchauffe le cœur également.
Ah oui? Est-ce que tu as regardé le match au complet hier?
Un peu, mais comme Régent Tremblay, j'étais indécise.
T'es
entre ça. Non, j'ai pas écouté SmackDown, mais je l'ai écouté. J'ai quasiment été le voir pour pouvoir te relancer, mais j'ai pas eu le temps. Mais j'ai écouté l'adresse à la nation de Donald Trump
oui.
un peu.
Ouais, alors, j'étais
indécise entre mon côté sportif et mon côté politique.
D'ailleurs, ce matin, on aurait pu mettre le thème d'Omerta dans cette chronique-là. On parle d'un fléau. Quand on parle d'Omerta, je parle pas de la série sur la mafia, mais de la loi du silence. Dans les histoires d'agression sexuelle, souvent le silence, c'est le pire ennemi des victimes et le meilleur ami des violeurs.
Oui, ce qu'on se rend compte, là, c'est qu'avec tous les dévoilements là, d'agression sexuelle, c'est qu'il y a quelque chose en commun qui s'appelle effectivement la loi du silence. Donc, c'est pour ça qu'on découvre tellement beaucoup d'années plus tard qu'il s'est passé des événements. T'sais, on pense souvent, effectivement, dans les écoles, les prêtres, etc. Puis donc, ça a duré de nombreuses années. Il y a eu des indices, mais personne va au-delà de tout ça. Et maintenant, on sent que maintenant, les femmes ou n'importe quelle personne qui est abusée ont une voix et il y a de l'écoute. Puis tu sens qu'il y a un changement de philosophie maintenant. Les femmes et les hommes doivent côtoyer également avec professionnellement sans qu'il y ait peur pour son intégrité.
Il y a eu des histoires dans le monde du sport, une de plus là, cette semaine. Ouais. Sarah Abitbol, la patineuse française qui vient de déclarer qu'elle a été violée à l'âge de 15 ans par son entraîneur.
Oui, pendant 2 ans par son entraîneur Gilles Bayard. Et ce qui est particulier dans ce cas-là, c'est qu'elle avait déjà essayé de dénoncer ce problème-là. Elle n'avait pas eu d'écoute. Et c'est elle qui a indiqué dans son livre là, qu'elle vient d'écrire que c'est comme un silence organisé. Et donc, là, maintenant, avec
Donc, ça veut dire que plusieurs personnes viennent à être au courant, puis pour l'intérêt de beaucoup de gens, on décide de
faire... On fait les sourds d'oreilles, ouais, c'est ça.
On fait la sourde oreille volontairement, parce que ça brise le sport, c'est quelque chose de caché. On parle
d'inceste. Ça brise le sport, ça brise la vie de la petite fille aussi.
Oui,
là.
Aussi.
C'est le plus important, là.
Donc, du scandale à Penn State, là, ça a été ça, la culture du silence qui a permis à un entraîneur de continuer ses agressions. Parce que, justement, le silence fait d'autres victimes.
Oui, en même temps, ça c'est arrivé en France, mais aussi je veux vous rappeler l'histoire de Andrew Geddes. Lui, c'était un entraîneur de tennis qui a été condamné, lui, à 18 ans de prison parce qu'il a fait des viols sur 4 de ses anciennes élèves mineures. Donc, en France, actuellement, on rebrasse tout ça, l'histoire d'Abitbol et le cas de ce monsieur-là, effectivement, là, qui a fait des agressions sexuelles sur leurs élèves. Ils sont en position de force, hein, comme des professeurs, comme des patrons, des collègues avec... Donc, tu sais, c'est des relations qui doivent être changées aujourd'hui, là.
On a l'impression que le système de justice rend tellement la chose difficile pour les victimes et il y a tellement de leviers que peuvent utiliser les accusés pour s'en sortir ou même réduire leur peine. Bertrand Charest, il me semble que la preuve a bel et bien été faite. Il y a eu une étude complète du dossier, plusieurs témoignages. Et l'été passé, on a réduit sa peine de 12 à 10 ans.
Oui, c'est quand même beaucoup. Là, c'est 2 ans. Là,
Il va faire 2 ans de prison, puis il va être
De moins. Donc, il y avait 12 ans, ouais, mais il passe à 10 ans.
Une peine de prison, tu fais quoi au Canada, au Québec? C'est 1/5 de la peine?
Je pourrais pas préciser, étant donné que je suis pas une spécialiste du droit criminel. Il faudrait demander à Riendo, avocat, sur ce point-là.
Avec un bon dossier, ils s'en tirent au tiers. Les criminels vont sortir au tiers de leur peine. Sauf, bien sûr, dans les cas de 25 ans, là, sans possibilité de libération conditionnelle.
Ça, c'est une autre chose. Ouais. Donc, lui, dans le fond, ce qu'il y a eu, c'est une réduction de peine de 21 mois. Et là, Gilbert, LP, avant de rentrer en onde, tu me disais pourquoi il y a eu cette réduction-là?
Ouais,
et je t'ai répondu, je le sais pas. La seule chose que j'ai pu avoir comme information, c'est que le tribunal a répondu ceci. Il serait injuste de laisser la peine totale à 12 ans.
Parce qu'on a comparé à d'autres cas, j'imagine. On
j'imagine.
Avec des jurisprudences.
La jurisprudence, effectivement.
C'est injuste.
Oui, injuste. Moi aussi, ça a comme heurté mes valeurs quand
injuste.
J'ai lu ça. Oui.
Par exemple, petites filles qui se sont faites
briser leur vie. Briser la traumatisé à vie.
Ouais. Mais je le dis souvent, c'est quoi mon leitmotiv? La loi n'est pas noire, elle n'est pas blanche, elle est grise. Donc, c'est tout le temps sujet à interprétation. Donc, effectivement, même dans le cas de Bertrand Charest, qui a été déclaré coupable, effectivement, là, en août 2019, on a vu sa peine réduire, là.
Il y a les courageuses.
Oui.
Ça, c'est les victimes de Gilbert Rozon qui ont porté en appel à la Cour suprême la décision parce que le plus haut tribunal au Québec a décidé de ne pas aller de l'avant des accusations envers Gilbert Rozon. Quand on parle de dossier étoffé, c'en est un, là.
Bien, la Cour suprême, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que les courageuses se sont mis ensemble, donc c'est pour ça qu'ils ont nommé ce groupe, et ils ont fait une demande de recours collectif à la Cour supérieure. La Cour supérieure a dit « Oui, vous avez des histoires similaires, donc on va accepter le recours collectif. » C'est quoi la beauté du recours collectif? C'est que tu as une mandataire qui fait office de président là, du groupe, là, la personne là, qui va parler au nom du groupe, et c'est un procès. Donc, toutes les dames ensemble se mettent ensemble, c'est un procès, des avocats qui représentent tout le monde. Tandis que si on refuse le recours collectif, ça veut dire que chaque individu doit faire un recours individuel.
Oh boy.
Imaginez-vous les frais pour ces femmes-là aussi.
Ça finira plus.
Ben, ça finira plus. Donc, ouais. La Cour d'appel a jugé que leur recours n'était pas assez similaire parce que ça s'est passé sur 34 ans. Avec des histoires différentes, à des endroits différents.
C'est plus facile quand on fixe le prix, exemple, du pain, mais là, tout le monde qui paye le mauvais prix, ben, c'est plus facile de dire ben, ça va être 20$ pour à tout le monde. Quand on parle de gestes criminels, ils n'ont pas tous la même teneur.
Oui.
On peut parler d'harcèlement psychologique, sexuel, des attouchements, viols, il y a plusieurs gradations. Fait que de mettre tout le monde ensemble, c'est ça que la Cour d'appel juge difficile.
Que les faits sont pas similaires, que les trames factuelles sont différentes et donc on peut pas parler d'une action collective. Et il y a deux jours ou avant-hier, là, si j'ai un blanc de mémoire, là, ils ont décidé de porter ça, les courageuses, en appel à la Cour suprême. Donc, ils vont discuter de ça. Ça, c'est fantastique parce que ça peut faire office de jurisprudence. C'est un cas québécois qui va être entendu au Canada. Donc, moi, je pense que, ben tu sais, quand il y a un malheur, il y a un bonheur. Quand il y a un bonheur, il y a un malheur. Le fait que la Cour d'appel a refusé le recours collectif, que ça va aller en Cour suprême, moi, je pense que c'est une excellente idée.
Moi, le nombre d'années qui s'écoulent entre les dénonciations et peut-être, à un moment donné, une inculpation, je pense que ça décourage certaines personnes de parler. La fameuse culture du silence est entretenue par les dédales de la loi dont tu parles, qui est grise,
oui.
Mais qui trop souvent permet de s'en tirer à des criminels qui
ne
devraient plus voir la lumière. Là.
Oui, bien effectivement, je finis avec un peu les courageuses parce que je veux faire une distinction parce que les gens vont se demander mais pourquoi, eux, le recours collectif a été refusé versus d'autres personnes, par exemple, de l'abus là, dans les systèmes, le système scolaire ou quoi que ce soit. C'est que dans les cas de recours collectif, quand c'est une institution qui figure à titre de co-défendresse, c'est plus solide. Tu sais, par exemple, il y a eu pas longtemps, je pense, le Collège Bourget de Rigaud, là, qui a eu certains prêtres là, avaient été accusés de pédophilie et d'agression. Mais l'institution, c'est le collège. Donc, c'est pas juste les individus. Alors que Rozon, c'est un individu. C'est ça qui fait un petit peu la distinction. Je suis bien curieuse de voir qu'est-ce qui va se passer dans le recours de la Cour suprême, mais on n'aura pas de nouvelles bientôt, là.
Dans les brèves de notre domaine juridique touchant au sport cette semaine, il y a l'histoire de transfusion sanguine des athlètes qui touchent plusieurs nations, plusieurs athlètes.
Mais oui, on continue un peu dans la loi du silence où on découvre cette année, en 2019, qu'il y a eu une grosse tourmente là, dans le domaine de ski de fond. Il y avait 21 athlètes. Écoutez-moi comme fou, là. 21 athlètes, 8 pays dans 5 sports qui sont associés à une affaire de dopage sanguin à grande échelle. Là.
Ça m'intéresse, ça, pour savoir... Ben, je suis un fondeur moi-même. Comment ça fonctionne, cette histoire-là? Là?
Ben, de transfusion de sang?
Oui, ouais, c'est ça.
Ben, écoutez, moi, je peux pas aller dans les dédales.
Est-ce
mais
que
moi, ce que je comprends, c'est...
On te transfuse son propre sang qu'on t'a pris il y a quelques
plus
mois.
Plus oxygéné, mais... je pense.
C'est
ça, exactement.
Plus de globules.
Oui, chaque athlète, là, quand même, là, recevait entre 15 et 20 transfusions de sang. Et il y a eu une descente qui a eu lieu pendant les championnats du monde de ski nordique en Autriche. Et ça incluait même des athlètes du cyclisme et du triathlon. Donc, c'est quand même un... Loi du silence, c'est quand même un gros secret. Ça inclut beaucoup de monde, ça.
Devrais-tu faire ça, Gilbert?
Non.
Hein? Non, ben c'est pas nécessaire. Là. Je pense que tu as la forme, mais t'es un athlète juste à te regarder. C'est pas nécessaire.
Mais ça, c'est
faire
ça. Ça fait longtemps. J'ai déjà entendu ça, ça, que les gars, les gars et les filles, ils se font prélever du sang. Après ça, peut-être une semaine avant la compétition, c'est réinjecté dans leur système. Il y a plus de je sais pas si c'est des globules blancs ou globules rouges. Je suis pas un expert là-dedans, mais c'est plus d'oxygène, en tout cas, puis ça fait une grosse différence au niveau de la performance.
Ben, écoutez, si je peux vous dire qu'en chirurgie esthétique, ce qu'ils font actuellement, c'est qu'ils vont prendre, pour régénérer, disons, des traitements au niveau facial, ils vont prendre un prélèvement de sang, ils vont le mettre dans une centrifugeuse, ouais. Donc ils vont retirer les plasmes, le plasma, et ils vont le remettre sur ton visage.
Oui.
Oui, donc c'est ce qui se passe actuellement au quotidien, là, dans le domaine esthétique. Ouais. Je pense
qu'on vient de pogner Gilbert avec son secret, parce qu'il a l'air encore...
Oui, c'est pour ça qu'il est tout fit, tout shape, là.
Terminons rapidement là, avec l'indemnisation des victimes par l'IVAC.
Bien, au même principe, si ces dames-là, les courageuses, ne peuvent pas avoir un recours collectif, ils doivent faire des recours individuels. On sait que c'est très onéreux, c'est très long. En attendant, encore, vous le savez, patriotes des lois québécoises ici, on a l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Donc, en principe, tu as un an à partir de la connaissance que tu as un problème ou des séquelles d'un acte criminel pour faire une demande. Mais c'est un organisme quand même, en attendant, qui peut nous aider. Et justement, là, actuellement, notre ministre de la Justice, j'ai un blanc de mémoire, et mon Dieu que je l'aime tellement, là, Sonia Lebel,
oui.
Est en train de faire justement tout un beau ménage dans toutes ces victimes d'agressions sexuelles, de tribunaux, etc. Là. Et elle est en train de modifier, en tout cas, je le souhaite fortement, si elle m'entend, alors je l'incite à le faire, la loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels pour ouvrir les bras à des victimes comme eux, même si ça fait longtemps.
Maître Mongeon, merci, bonne semaine.
Et merci vous aussi. Sophie.